Il vous est certainement déjà arrivé en lisant un livre de vouloir connaître la fin de l'histoire avant d'avoir tout lu et d'avoir filé dans le dernier chapitre pour connaître comment ça se termine. Eh bien, c'est ce que je vous propose de faire. Filons en Luc chapitre 23 et on va lire les versets 50 jusqu'au chapitre 24, verset 12. Luc 23, 50. Il y avait un conseiller nommé Joseph, homme bon et juste, qui n'avait point participé à la décision et aux actes des autres. Il était d'Arimathée, ville des Juifs, et il attendait le royaume de Dieu. Cet homme se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus. Il le descendit de la croix, l'enveloppa d'un linceul et le déposa dans un sépulcre taillé dans le roc, où personne n'avait encore été mis. C'était le jour de la préparation et le sabbat allait commencer. Les femmes qui étaient venues de la Galilée avec Jésus accompagnèrent Joseph, virent le sépulcre et la manière dont le corps de Jésus y fut déposé. Et s'en étant retournées, elles préparèrent des aromates et des parfums, puis elles se reposèrent le jour du sabbat selon la loi. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre. Étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici, deux hommes leur apparurent en habits resplendissants. Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre. Mais ils leur dirent, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée, et qu'il disait, « Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. » Et elles se souvinrent des paroles de Jésus. À leur retour du sépulcre, elles annoncèrent toutes ces choses aux onze et à tous les autres. Celles qui dirent ces choses aux apôtres étaient Marie de Magdala, Jeanne, Marie, mère de Jacques, et les autres qui étaient avec elles. Ils prirent ces discours pour des rêveries, et ils ne crurent pas ces femmes. Mais Pierre se leva et courut au sépulcre, s'étant baissé, il ne vit que les linges qui étaient à terre, puis il s'en alla chez lui dans l'étonnement de ce qui était arrivé. L'une des particularités de l'évangile selon Luc est la place significative qui est accordée aux femmes. De la nativité, où Marie, Élisabeth et Anne jouent un rôle prépondérant en passant par la place importante des femmes dans la vie et dans le ministère de notre Seigneur, jusqu'au matin de la résurrection, où ce sont les femmes qui sont les personnages principaux. Mais la résurrection, ça n'est pas la fin. Ça n'est pas la fin de l'histoire. La résurrection, c'est l'histoire. Je veux dire par là que sans la résurrection, il n'y a pas d'histoire. Sans la résurrection, il n'y a pas d'évangile. Sans la résurrection, il n'y a pas de Nouveau Testament. Sans la résurrection, la croix même n'a pas de sens. Sans la résurrection, il n'y aurait pas de christianisme. On ne serait pas là. Mais quand Dieu a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, il affirmait que Jésus était bien mort pour nos péchés, comme annoncé par les prophètes. Il affirmait que la justice de Dieu était satisfaite par la mort de Christ. Il affirmait que l'accès à la gloire éternelle nous était ouvert à tous ceux qui croient. Sans la résurrection, la croix de Christ n'est qu'une croix de plus. Il y avait d'ailleurs deux autres crucifiés ce même jour. Mais la résurrection de Christ garantit l'œuvre accomplie à la croix. même à Pentecôte, le message qui était prêché, c'était le message de la résurrection. Et tout le Nouveau Testament atteste ces vérités-là. Chaque message, c'est le message de la résurrection, la preuve que nos péchés ont été effacés. La résurrection de Christ dans un corps glorieux garantit que nous qui croyons ressusciterons aussi dans un corps glorieux, qui ne sera plus sujet à la maladie, à la faim, à la fatigue, à l'humiliation et à la mort, mais un corps qui traversera les âges pour l'éternité. Il y a quatre faits capitaux dans ce récit qu'on vient de lire ce matin qui attestent de la résurrection de Jésus-Christ. Et ces quatre faits capitaux sont attestés par les femmes. Et j'aimerais qu'on garde cette pensée en tête. On va voir ce matin, le premier fait, c'est que le tombeau est vide. On verra ensuite le témoignage des anges. En troisième lieu, on verra le propre témoignage des femmes. Et puis ensuite, on verra l'incrédulité des disciples. Regardons tout d'abord le premier des faits auxquels ont assisté les femmes. Les femmes, le tombeau est vide. Les femmes étaient là quand Jésus rendait son dernier souffle. Regardez cela, juste si on peut revenir un peu en arrière, en Luc 23, verset 46. Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et en disant ces paroles, il expira. Le centenier, voyant ce qui était arrivé, glorifia Dieu et dit, « Certainement cet homme était juste. » Et tous ceux qui assistaient en foule à ce spectacle, après avoir vu ce qui était arrivé, s'en retournèrent, se frappant la poitrine. Tous ceux qui connaissaient Jésus et les femmes qui l'avaient accompagné depuis la Galilée se tenaient dans l'éloignement et regardaient ce qui se passait. Les femmes étaient témoins de la mort de Jésus-Christ. Elles étaient là lorsque les soldats ont percé le côté de Jésus pour vérifier qu'il était bien mort. Elles étaient là lorsque Joseph d'Arimathée et Nicodème ont mis son corps dans le tombeau. Elles étaient là lorsqu'on roulait la pierre devant le tombeau, une pierre tellement grosse qu'elle ne pensait pas pouvoir la déplacer elle-même. Mais le dimanche matin, lorsqu'elles arrivent devant le tombeau, la pierre est roulée et le tombeau est vide. Et à la place du corps où elles avaient vu que l'on mettait Jésus, simplement les linges dans lesquels il avait été enveloppé, mais intact et vide. L'évangile de Matthieu nous donne quelques explications supplémentaires sur le récit de la résurrection. Et on apprend dans l'évangile de Matthieu, à partir du chapitre 27 et verset 62, que les souverains sacrificateurs, les principaux sacrificateurs et puis les pharisiens sont allés ensemble devant Pilate et ont dit « Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur a dit quand il vivait encore « Après 3 jours, je ressusciterai. » Ordonne donc que le sépulcre soit gardé jusqu'au 3e jour, afin que ses disciples ne viennent pas dérober le corps et dire au peuple, il est ressuscité des morts. Cette dernière imposture serait pire que la première. Et Pilate leur a donné une garde pour garder le tombeau. Et le matin, le dimanche matin, les gardes sont là devant le tombeau, et puis un ange descend du ciel. Un tremblement de terre s'opère et la pierre est roulée de devant l'entrée du tombeau. Et à ce moment-là, les soldats sont pris de panique. Ils sont terrorisés et ils fuient. Quelques-uns des soldats sont repartis devant trouver les sacrificateurs. Il est dit au chapitre 28, verset 11 dans l'évangile de Matthieu, quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville et annoncèrent aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé. Et tout ce qui est arrivé, ils ont dit, mais C'est pas croyable ce qui s'est passé. Il raconte, on était là, réveillés, c'était le matin, et puis il y a eu un tremblement de terre, et puis un ange du ciel est venu, il a roulé la pierre, et puis il a dit, ne cherchez pas parmi les morts celui qui est vivant. Il est ressuscité des morts. Regardez, le tombeau est vide. Et on vient vous raconter cela. Les sacrificateurs, les principaux sacrificateurs, les pharisiens se réunissent en conseil. Ils disent, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Et ce qui est incroyable ici, c'est que les anciens et le conseil du Sanhédrin ne mettent absolument pas en doute le récit. Ils n'ont pas posé de questions sur le tremblement de terre, sur les anges. Ils n'ont pas dit, vous aviez fait la fête hier soir, non. Non, ils ont accepté le témoignage des soldats pour vrai. Immédiatement, en fait, ils savent, eux, que Jésus a fait voir des aveugles, qu'il a guéri des boiteux. Ils ont vu les lépreux, les anciens lépreux, venir devant eux pour attester de leur guérison. Ils savent qu'il a même ressuscité des morts. Et c'est pourquoi ils acceptent le récit des gardes. Mais pour que la chose ne se répande pas, ils inventent un mensonge et ils soudoient les gardes pour le colporter. La tombe est vide. La tombe est vide, c'est un fait. La tombe est vide. Même ceux qui ne veulent pas de Christ comme Seigneur le savent. Et les femmes aussi sont témoins de ce que la tombe est vide. Le deuxième fait que l'on peut relever ici dans les versets 4 à 7, c'est le témoignage des anges. Alors que les femmes sont perplexes, elles ne savent pas que penser du tombeau vide. Les anges apparaissent et expliquent. Certains sceptiques disent que les femmes se sont trompées de tombeau. Ça, c'est des hommes qui ont dit ça. Utilisant l'argument souvent répété du manque de sens d'orientation des femmes. Mais ce serait quand même ballot. Elles ont accompagné Joseph d'Arimathée deux jours plus tôt jusqu'au tombeau. Elles seules, les femmes, il n'y a pas un disciple qui est là. Mais les femmes sont là et elles observent le tombeau dans lequel on a mis Jésus. Elles observent Jésus de la manière dont il est placé dans le tombeau. Ce n'était pas d'une manière distraite dont elles ont regardé les choses. Ce n'était pas quelque chose de lointain. Non, elles ont vu comment on mettait Jésus dans le tombeau. Elles se seraient trompées ? Non, j'y crois pas. Mais surtout, comment expliquer que les anges se soient aussi trompés de tombeau? Ça, c'est... Là, c'est encore plus loufoque. Non. Les anges sont bien dans le tombeau et ils leur rappellent les propos du Seigneur Jésus alors qu'ils étaient en Galilée. Ils rapportent ces versets que je voudrais vous lire en Luc 9, verset 22. Luc 9, 22, il dit, et il ajouta qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le troisième jour. Au chapitre 18 et au verset 31, il est dit encore, Jésus prit les 12 auprès de lui et il leur dit, « Voici, nous montons à Jérusalem, et tout ce qui a été écrit par les prophètes au sujet du Fils de l'homme s'accomplira, car il sera livré aux païens. On se moquera de lui, on l'outragera, on crachera sur lui. Et après l'avoir battu de verge, on le fera mourir. Et le troisième jour, il ressuscitera. Mais ils ne comprirent rien à cela. C'était pour eux un langage caché, des paroles dont ils ne saisissaient pas le sens. À l'époque, les femmes n'avaient pas non plus saisi les choses. Mais maintenant, devant le tombeau vide, le troisième jour après sa mort, les femmes percutent. Verset 8, il est dit, elles se souvinrent des paroles de Jésus. Elles captent. Elles disent, c'est donc cela. Il est ressuscité d'entre les morts. Jésus avait dit, il faut que les choses s'accomplissent ainsi. Il faut qu'il meure et puis il faut qu'il ressuscite. Il fallait qu'il en soit ainsi. Pour le salut de nos âmes, il n'y avait pas d'autre moyen pour nous sauver. Il fallait que Jésus meure. Et puis il fallait qu'il ressuscite pour sauver nos âmes. Et c'est pourquoi elles avaient, que toutes ces choses avaient été annoncées à l'avance par les prophètes. C'est pour cela que Jésus les avait expliquées, rapportées à plusieurs reprises. Et c'est pourquoi aussi maintenant que les choses s'accomplissent, les disciples de Christ peuvent croire. On a souvent relevé le courage de Joseph d'Arimathée, disciple de Christ, mais en secret jusqu'alors, membre du Sanhédrin qui n'avait quand même pas participé à la décision de la crucifixion, et qui osa se rendre devant Pilate pour lui réclamer le corps. Aussi, c'est lui qui a offert à Jésus une sépulture. On a relevé également le courage de Nicodème, le chef des Juifs, qui était un pharisien, docteur d'Israël, qui jusqu'alors avait été extrêmement discret sur sa foi en Jésus-Christ, et qui finalement se rend également, deux jours cette fois-ci, avec Joseph jusqu'au tombeau. Et c'est lui qui offre les aromates pour embaumer le corps de Christ. Mais il faut aussi relever le courage de ces femmes qui avaient suivi Jésus depuis la Galilée jusqu'à Jérusalem et qui ont accompagné Joseph et Nicodème jusqu'au sépulcre. Les deux hommes étaient liés au chef religieux qui avait orchestré la conspiration de Jésus, contre Jésus. Et il faut noter qu'il n'y a pas un seul des onze. Il faut se souvenir que Pierre a renié connaître Christ. Il faut savoir que tous les autres ont fui. Que même lors de la crucifixion, combien des douze étaient là? Il y avait Jean. Tous les autres avaient fui. Et quand on a emmené son corps dans le tombeau, il n'y avait pas un homme. Hormis Joseph et Nicodème, c'était des femmes, disciples de Christ, et qui étaient là. Elles avaient du courage. Mais il y avait aussi chez elles beaucoup d'amour pour le Seigneur, parce que c'est elles, le dimanche matin, qui ont couru jusqu'au tombeau. Les hommes sont chez eux, endormis. Les femmes sont préoccupées par la sépulture, par la dépouille de leur sauveur. Et je crois que le courage et l'amour de ces femmes ont été richement récompensés. Ce sont les premières à voir le tombeau vide. Et ce sont les seules à entendre le témoignage des anges. Le troisième fait, c'est leur propre témoignage. On voit ça dans les versets 9 et 10. Là encore, l'évangile de Matthieu nous donne quelques détails supplémentaires. Et au chapitre 28, verset 8, je vais lire Matthieu 28, verset 8. Elles s'éloignèrent promptement du sépulcre avec crainte, elles viennent de voir les anges, avec crainte et avec une grande joie. Et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Elles connaissent encore la crainte, c'est l'émotion provoquée par l'apparition de ces anges. Hein. Ça n'arrive quand même pas tous les jours. Mais elle est accompagnée, cette grande crainte, d'une grande joie. Une joie profonde, c'est cette joie que l'on célèbre ce matin, c'est-à-dire cette joie qui porte tous les espoirs, toutes les espérances, elles sont là, tenues par la résurrection de notre Sauveur Jésus-Christ. Et puis, elles partent, elles savent maintenant, elles ont compris, et maintenant elles veulent partager cela avec les autres. Et regardez au verset 9, il est dit, « Et voici, Jésus vint à leur rencontre. » Et il dit, « Je vous salue. Bonjour, mesdames. » Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds, et elles l'adorèrent. Alors Jésus leur dit, « Ne craignez pas. Allez dire à mes frères de se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. » J'aime ça. Ces femmes, elles sont... ça y est, elles croient maintenant que Jésus est ressuscité. Mais maintenant, elles le voient. Elles le voient avec leurs propres yeux. Elles le voient ressuscité. Elles le voient ressuscité. Tout à l'heure, dans le jardin de japonais, on a lu ce récit dans l'évangile de Jean, celui de Marie de Magdala. Marie de Magdala, c'était la première, elle, la première des premières. Elle est arrivée, elle a vu que le tombeau était vide, elle s'est dit, on a volé le corps. Elle est retournée, elle a averti Pierre, Jean, vous savez pas quoi, ils ont volé le corps. Je suis dégoûté. Pierre et Jean, c'est Jean qui gagne, mais c'est Pierre qui rentre. Et là, il voit la chose, il voit les linges. Et Jean comprend. Jésus est ressuscité. Et ça, il repart avec ça dans son cœur, il rentre chez lui. Et Marie de Magdala, elle n'a pas encore capté. Elle tourne encore dans le jardin et puis là, elle voit les anges. Pourquoi pleures-tu? Oh, il dit, oh, ils ont pris le corps de mon Seigneur. Oh, si c'est vous qui l'avez pris, rendez-le moi. Puis elle se retourne, elle voit un homme, c'est Jésus qu'elle ne reconnaît pas. Elle dit, mais elle est toujours dans son truc. On a volé le corps. Jésus, jardinier, si c'est toi qui as pris le corps, rends-le-moi. Et il dit Marie. Et là, tac, elle comprend. Rabouni, tu es vivant. Et là encore, il y a toute l'espérance qui est... Et là, elle veut embrasser les pieds et Jésus lui dit, écoute, va-t'en. Je suis encore là pour un temps. Va prévenir mes frères. Donne-leur rendez-vous en Galilée. Et ces femmes ont vu Jésus et elles vont le faire savoir, vont le faire connaître. C'est pas simplement qu'elles ont vu le tombeau vide ou qu'elles ont vu et entendu le discours des anges, mais elles ont vu Jésus ressuscité. Ce n'est pas une seule seulement, parce que sinon on n'aurait jamais tenu compte de son témoignage. Mais ce sont plusieurs femmes en même temps qui ont vu Jésus. Et par la suite, le Seigneur apparaîtra aux deux disciples d'Emmaüs et encore à tous les disciples, mais sans Thomas. Et puis la semaine suivante, avec tous les disciples et avec Thomas, qui lui finira par croire. Puis en Galilée, et puis à 500 frères à la fois. Elles ont vu Jésus ressuscité et elles sont capables d'en témoigner. Et puis, le quatrième fait, c'est l'incrédulité des disciples. Vous avez remarqué, verset 11, Ils prirent ces discours pour des rêveries et ils ne crurent pas à ces femmes. On peut se demander en quoi l'incrédulité des disciples soit une preuve de la résurrection du Seigneur. En fait, lors d'une enquête, on cherche à savoir à qui profite le crime. Or, la résurrection profite aux disciples. Mais les disciples ont pris les discours des femmes pour des rêveries. Et ça prouve qu'ils n'ont pas fabriqué la résurrection, parce qu'ils n'imaginaient même pas qu'il y en ait une. Regardez au chapitre 24 en Luc toujours, mais au verset 19. C'est Jésus qui rencontre les disciples d'Emmaüs. Je prends un petit peu plus haut, verset 17, il leur dit « De quoi vous entreteniez-vous en marchant ?» Et ils s'arrêtèrent, l'air attristé. L'un d'eux, nommé Cléopas, elle lui répondit « Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci ?»« Quoi ?» leur dit-il. Et ils lui répondirent « Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. » Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le troisième jour. Là, normalement, ça aurait dû faire troisième jour. Il avait dit trois jours. Non. Voici le troisième jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que les anges leur ont apparu et ont annoncé qu'il est vivant. Là, normalement, ça aurait dû percuter quand même. Il aurait dû y avoir la lumière Mais non. Ils insistent, regardez, verset 24. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre. Et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Non mais. Franchement, c'est. Ils n'imaginent pas un instant qu'il puisse y avoir une résurrection. Regardez verset 25. Vous savez, Jésus, il a dû être. Alors Jésus leur dit, ô homme sans intelligence. Là, c'est littéral, hein. C'est. Il n'y a rien. Sans intelligence. Et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Et puis il leur explique. Et puis il leur explique un bon moment, parce qu'ils marchent longtemps, ils font 11 kilomètres, je crois. Et puis à table, il rend grâce, et c'est quand il rend grâce. Est-ce qu'ils ont vu ses mains percées à ce moment-là, qu'ils ont compris? Et puis Jésus est parti. Incroyable. Devant les faits, ils sont encore complètement aveuglés par leur incapacité à croire en la résurrection. Pouvez-vous imaginer ces hommes dérobant le corps de Jésus pour faire croire au monde que Jésus est ressuscité? Mais ils n'y croient pas eux-mêmes, devant les faits. Alors inventer l'histoire, c'était totalement impossible. Et voilà pourquoi l'incrédulité des disciples est un des faits capitaux prouvant à la résurrection du Seigneur Jésus. Je conclue avec deux remarques. Tout d'abord, je voudrais relever simplement les femmes pieuses de la résurrection. Les hommes n'ont pas le très bon rôle, hein, ici. Ils sont assez incrédules, assez poltron, assez lâche, pas très matinaux. Lent à croire, mais les femmes, elles, ont percuté. Elles ont capté et elles ont cru. Je pense que dans une époque au Nouveau Testament, dans le Nouveau Testament, où les femmes n'étaient pas vraiment prises au sérieux, où les choses n'étaient pas tellement en leur faveur, l'évangile ici de Luc rapporte la place merveilleuse que les femmes peuvent prendre dans la vie d'une église, dans la vie d'une société. Ces femmes, elles étaient courageuses. Elles étaient aimantes. Elles étaient dignes de confiance, puisque c'est les anges qui se sont adressés à elles pour entendre le témoignage divin. Et puis, le Seigneur les a elles-mêmes mandatées à aller dire à mes disciples, rendez-vous en Galilée, il faut que je les voie. Et elles ont été persévérantes, malgré l'incrédulité des hommes qui les entouraient. Et je trouve que dans l'Église, et dans les Églises en général, il y a souvent beaucoup de femmes qui sont seules, parfois, mais qui manifestent la même piété, le même courage, le même amour pour le Seigneur, la même persévérance dans le témoignage à rendre dans leur propre famille. Et je veux juste qu'on les honore avec ce témoignage fidèle qu'elles rendent. Et puis, finalement, elles ont été crues. Alors peut-être que si vous êtes seul aujourd'hui dans votre famille, vous ne le serez pas toujours. Continuez, persévérez avec le Seigneur. Et puis, l'autre remarque que je voudrais faire, ce sont que des faits. Le tombeau est vide, les anges ont témoigné de ce que Jésus est ressuscité, les femmes l'ont vu, elles ont été envoyées par lui auprès des disciples, les hommes qui avaient pourtant marché avec Jésus pendant 3 ans avaient beaucoup de mal à croire. Ce sont des faits, et la résurrection repose sur des faits. On ne vous demande pas de sentir. Tu le sens, là, la résurrection ? Tu le sens qu'il est ressuscité ? Non. Moi, je le sens. Ah, moi, toi, tu le sens pas. Alors. C'est pas une question de feeling. Ce sont des faits. Ce sont des faits. Et donc, devant Dieu, un jour, les hommes devront faire face à des faits. Des faits vérifiables, de sorte que Dieu pourra dire, ils sont inexcusables. C'est Paul qui le dit en Épître aux Romains. Ils sont inexcusables. Les preuves sont là. Et donc, si vous n'avez jamais placé votre confiance en Jésus-Christ pour le salut de votre âme, si vous n'avez jamais placé votre confiance dans sa mort pour vos péchés et sa résurrection, suppliez Dieu qu'il ouvre vos cœurs à la foi. Suppliez-le d'enlever les écailles de vos yeux, comme il l'a fait pour les disciples d'Emmaüs. Suppliez-le d'ouvrir votre cœur pour que vous puissiez croire en lui. Et puis, ce sont des faits pour nous qui avons cru au Seigneur Jésus, sont des faits. Et les faits ne changent pas. Nos sentiments, parfois, nos sensations, elles sont parfois en haut, parfois en bas, mais les faits, eux, sont stables. Jésus est ressuscité. Et l'incrédulité du monde ne changera pas les faits. Les faits sont là. Le tombeau est vide. Jésus est ressuscité. Mais vous voyez, ce dont est porteur, c'est tous ces faits. Si Jésus est ressuscité, alors il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Si Jésus est ressuscité, il est aussi assis à la droite du Père et il intercède pour nous. Si Jésus est ressuscité, il nous prépare une place dans la gloire et il nous prendra avec lui pour toujours. Belfort, qui était là à ma place il y a quelques minutes, m'a dit que Jonathan, notre jeune frère qui est parti auprès du Seigneur, il avait médité sur le 1 Corinthiens chapitre 15, quelque temps avant de partir. Il a laissé des notes. Je trouve ça merveilleux. 1 Corinthiens 15, le chapitre sur la résurrection, tout était là. Si Jésus est ressuscité, alors nous avons un avocat auprès du Père. Et quelles que soient nos fautes, quels que soient nos péchés, on peut venir devant lui et répandre nos cœurs et trouver une purification pour tous nos péchés, une conscience nette, pure, pour pouvoir continuer à marcher avec lui. Si Jésus-Christ est ressuscité, tous les espoirs sont permis. Vous savez, parfois on dit « Oh, si seulement ». Oubliez les « Oh, si seulement » et dites « Oh ». Il est vivant. Il est vivant. Parce qu'il est vivant, alors toutes les promesses sont contenues dans cette résurrection. Il est vivant. Il saura conduire vos vies parfaitement. Il est vivant. Il pourra aplanir votre marche, votre sentier. Il est vivant. Vous pouvez laisser de côté vos inquiétudes et vos craintes. Il est vivant. Il connaît l'étape à venir. Il est vivant. Il peut entendre vos prières. Il est vivant, il est puissant pour y répondre. Voyez, tout ce dont est porteur, les faits de la résurrection. Alors, oubliez les sentiments, les sensations, et juste fondez vos vies sur des faits. Jésus-Christ est ressuscité. Que Dieu vous bénisse.